France Inter. France Inter.fr.
13h30 sur France Inter. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Servageur.
La marche de l'histoire, c'est parti pour aujourd'hui.
Oui, il n'y aura pas de panda, il n'y aura pas de chameau, mais bien d'autres animaux, les animaux dans l'Égypte ancienne.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les animaux dans l'Égypte ancienne.
L'Égypte n'est pas riche en animaux, mais ils sont tous, par les Égyptiens, considérés comme sacrés. Si quelqu'un tue un animal sacré, si c'est involontairement, il paie une amende fixée par les prêtres. Mais quiconque, volontairement, doit mourir. Voilà assez pour les animaux sacrés.
Claude Pieplu, que vous avez reconnu, cite ici Hérodote, qui voudrait que notre sujet tourne court avant même qu'il n'ait commencé. Non, il va rebondir. Les Grecs marquaient de l'étonnement devant les positions des Égyptiens face aux animaux. Les Romains multipliaient les sarcasmes des villes entières qui vénèrent des chats, des poissons. Ces dévots du Nil sont des fous. Plus tard, les pères de l'Église s'indignèrent. Le rapport des Égyptiens aux animaux, décidément, apparut longtemps inouï. Mais voilà qu'aujourd'hui, on débat de plus en plus de la barrière des espèces. Où placer la frontière entre l'animal et l'humain? Y a-t-il vraiment un propre de l'homme? En la matière, l'observation des positions assez extraordinaires des Égyptiens n'est donc pas inutile. Chez eux, l'animal et l'humain s'entremêlaient de la même manière que l'imaginaire et le quotidien. Les Égyptiens ne posaient pas comme nous une frontière entre nature et culture. Dans l'histoire des grandes civilisations, ils font vraiment figure d'animaux singuliers puisqu'ils ne considéraient pas l'homme comme un animal spécial. Florence Marvejol, bonjour.
Bonjour.
Égyptologue, auteur d'innombrables ouvrages sur l'Égypte, l'Égypte pour les nuls, récemment aux éditions Chroniques, un livre sur les dieux et les pharaons. Oui, les Égyptiens, ils considéraient que les animaux pouvaient avoir participé dès le départ à la création du monde.
Absolument. C'est-à-dire que bon, pour les Égyptiens, enfin, ils se représentaient la création comme étant partie d'une immense étendue d'eau, hein, donc on ne connaissait pas très bien ni la profondeur ni les limites. Et d'après l'une des versions donc, de la création, dans cette étendue d'eau, se seraient trouvés quatre couples de génies serpents et grenouilles. Et ces génies serpents et grenouilles auraient porté le soleil hors de cette étendue d'eau. Et le soleil, ensuite, aurait procédé à la création du monde. Donc on voit que très vite, l'animal intervient dans le monde des humains.
Alors ils vivent dans une vaste étendue de terre et d'eau, la vallée du Nil, où tout croît. Et multiplie, et où il est difficile de faire la différence entre la faune et la flore qui sont mêlées, inséparables.
Oui, bon, les Égyptiens ont toujours vécu extrêmement proches des animaux, hein, ce qu'on a du mal peut-être, nous, dans nos sociétés très urbaines, à se représenter. Mais les Égyptiens bon, côtoient au quotidien, par exemple, les animaux sauvages, les animaux bon, qu'ils auront domestiqués. Et là aussi, enfin, bon, on se représente mal aujourd'hui ce qu'a pu être autrefois la vallée du Nil, puisque beaucoup d'animaux ont disparu, comme l'hippopotame, l'ibis aussi, qui a tenu une très grande part chez les Égyptiens, notamment dans la religion. Ces animaux ont complètement déserté l'Égypte.
Parmi les animaux d'élevage, commençons par l'élevage, le bœuf, c'est le bœuf africain qui vient de très loin,
oui,
dans
oui,
le temps.
Et donc, enfin, les Égyptiens ont commencé à domestiquer les animaux un petit peu plus tardivement que, par exemple, bon, au Proche-Orient. Et ces animaux d'élevage, bon, bien sûr, les bovidés hein, sont extrêmement bien représentés, mais ils élèvent également les moutons, les chèvres et aussi les porcs. Alors, les porcs bon, sont peut-être moins souvent représentés hein, sur les murs des tombes, par exemple, mais l'élevage est bien attesté, notamment bon, dans les tas d'ordures rejetées hors des villages que les archéologues ont pu fouiller. Donc, il y a bien des ossements de porcs.
Vous parlez des murs des tombes. Les sources qui permettent de nous informer sur les animaux sont innombrables.
Absolument, oui. Beaucoup de représentations, hein, donc à commencer par les tombes. Bon, évidemment, tout ça a été lié à la conception que les Égyptiens avaient de l'au-delà, où ils pensaient que dans l'au-delà, ils allaient perpétuer la vie terrestre. Donc, il fallait se nourrir, hein, il fallait continuer cette vie. Et évidemment, l'élevage et l'agriculture faisaient partie intégrante des activités qu'on entendait retrouver dans l'au-delà.
Mais des textes nombreux aussi.
Beaucoup de textes, hein, également, où les animaux sont évoqués. À la fois bon, dans tous les domaines, hein, aussi la religion, la comptabilité.
Donc Franck Olivard, lui, disposait de moins de sources. Les reconstitutions cinématographiques qui vont illustrer notre émission, qui sont souvent soigneuses, comme celle du Polonais Kavalerowicz, Pharaon, film de 1965. Le pharaon Ramsès XIII est à la chasse dans la vallée du Nil.
Si je le touche, je materai erreur. Si je réussis celui-là, le peuple assyrien sera vaincu. Encore une fois, et ma puissance égalera celle de mes glorieux ancêtres.
Et le pharaon de déclencher un grand envol d'oiseaux qu'on pourrait classer et ordonner, parce que c'est le rôle du pharaon de mettre de l'ordre dans la nature.
Le faucon est l'oiseau du dieu Horus, notre Apollon. Sa vue est si puissante qu'il peut fixer le soleil. L'ibis est l'oiseau du dieu Thoth, ou Hermès, qui donna aux hommes les premiers principes d'astronomie et de musique, et qui inventa les hiéroglyphes. Il l'appelle gardien des lettres sacrées. Il y a encore un oiseau sacré appelé le phénix. S'il est tel qu'on le peint, voici quelle serait sa grandeur et son apparence. Ses plumes or et rouge vif et ressemblant à l'aigle pour la silhouette et la taille. Il visite rarement les Égyptiens. Tous les 500 ans, disent les gens d'Héliopolis, il viendrait quand son père meurt pour l'embaumer. À mon avis, c'est là un récit incroyable.
Alors, vous pensez tous Claude Pieplu, mais en fait, il lit Hérodote. Le phénix se lèverait seulement tous les 500 ans, mais non, c'est la figure de la Renaissance du milieu naturel.
Oui, enfin, le phénix apparaît hein, dans les textes funéraires et les représentations funéraires, et donc c'est une image du dieu solaire, et donc il va participer aussi à la Renaissance des défunts.
Animaux d'élevage, animaux qu'on chasse, animaux domestiques, je vois si l'expression est tout à fait juste pour les débuts de la civilisation égyptienne. Dans les représentations, on voit parfois sous les sièges des chiens, des chats. Un auditeur nous demande, on ne parle pas beaucoup du chien dans les bestiaires égyptiens. Le chien
aussi,
a précédé
le chien
plutôt
présent. Le chien est très...
qu'il l'a suivi, le chat dans la domestication.
Oui, absolument. Les Égyptiens ont d'abord fait rentrer les chiens dans leur maison et plus tardivement, en fait, les chats, même si les chats, dès la fin de la préhistoire, au moment où l'on cultive du blé, où on l'engrange dans les greniers, les chats vont être, côtoyer la maison et on va leur demander de chasser les souris qui menaçaient les céréales. Mais on ne va pas le câliner comme on va faire avec les chiens, où on a même, au tout début de l'histoire égyptienne, à Abydos, il y a un certain nombre de grands personnages qui sont enterrés et qui laissent des stèles pour être identifiés. Et parmi ces personnages se trouve un chien. Il y a une stèle de chien et on reconnaît notamment la petite représentation au hiéroglyphe du chien qui détermine son nom. Donc très rapidement, en fait, le chien côtoie l'homme et devient le meilleur ami de l'homme.
Vous définissez prudemment l'animal domestique comme celui qui côtoie d'assez près l'homme, le singe. Alors le singe très près l'Égyptien.
Oui, et le singe, alors c'est plus particulier parce que le singe n'est pas originaire d'Égypte, hein, il est importé d'Afrique. Mais également, il fait partie de la maisonnée. Et on a même aussi un animal, c'est un petit peu plus marginal, mais il y a des oies domestiques aussi, où on a des représentations où sur le siège de madame se trouve une oie, donc une oie domestiquée. Voilà, donc enfin un éventail, effectivement, entre chien, chat, donc un peu plus tardivement, singe, oie. Donc les Égyptiens aiment s'entourer des animaux donc chez eux. Et pour le chien, par exemple, et même enfin pour certains chats, ils poussent enfin l'affection de leur animal à tel point qu'ils vont faire un tombeau, par exemple, une petite tombe pour leur animal, ou ils leur dédient un sarcophage. On a un sarcophage de chatte, notamment, qui est conservé au musée du Caire, avec la représentation de la chatte qui est momifiée.
Avant que les momifications se multiplient à l'époque tardive, on en reparlera.
Ça, c'est autre chose.
Mais ici, vous parlez de Madame. Madame peut s'identifier au chat. Écoutez, autre film, l'Égyptien, Curtis, 1954, Néfer, une jeune femme qui a de l'ambition et qui se mire souvent au bain ou au lit avec son image.
La déesse de l'amour avait ses raisons pour prendre la forme d'un félin.
Quand je te regarde, qu'importe les félins ou les dieux.
Regarde Sinoué. Les pattes du chat sont douces, mais il a des griffes. Le chat prend plaisir à tourmenter ses victimes. Ce n'est que quand elles agonisent qu'il leur montre de la pitié, en les mettant à mort.
Une des grandes originalités des Égyptiens, c'est qu'ils ont des difficultés à diviniser les hommes. Même le pharaon, contrairement à l'opinion commune, ça va beaucoup étonner les Grecs, mais qu'ils ont beaucoup de facilité, en revanche, à glisser les puissances divines dans les formes animales.
Oui, c'est l'association avec la nature, justement, parce que l'animal, bon, est directement issu de la nature, pour eux, alors que, bon, l'homme est plus, sans doute plus civilisé, et donc l'animal est plus apte à être associé donc, à ces forces de la nature et à les dominer, en fait, hein, puisqu'il en est issu.
Alors, il y a systématiquement une identification, un dieu qui va avec un animal ?
Disons que bon, assez fréquemment. Enfin, même les dieux qui ont une forme humaine, comme Amon par exemple, aura un animal sacré qui est le bélier.
Le pharaon, lui, devient difficilement un dieu.
S'il est un dieu à partir du moment où il est couronné, c'est un dieu. Il est divinisé quoi, à partir du moment où il est couronné. Mais bon, les Égyptiens savent qu'il y a une double nature, c'est-à-dire qu'il continue à être humain parce que bon, il va souffrir, il va mourir. Et d'un autre côté, puisqu'il exerce la fonction royale, il est un dieu. Et quand il meurt, là, il devient un dieu à part entière. Il est vénéré comme un dieu. Il a un temple dans lequel on vient apporter les offrandes et lui rendre le culte. Et dans sa tombe, après, il y a toutes sortes de textes funéraires qui vont l'assimiler aussi à un dieu.
Mais parlons maintenant, on va prendre un exemple parmi 100, du seigneur des nécropoles, du patron des embaumeurs, Anubis.
Anubis, alors lui, donc, a une forme de chien. Il peut être à la fois un homme avec une tête de chien ou se présenter complètement sous la forme du chien. Bon, ce qui nous rappelle en fait que les dieux ne montrent jamais leur véritable apparence, hein, leur véritable aspect est caché, parce que si on le connaissait, on pourrait agir dessus et à partir de ce moment-là, prendre la domination de la divinité, agir contre la divinité. Hein. Donc c'est pour ça que les dieux peuvent aisément changer d'apparence. Alors Anubis, si on a choisi le chien pour protéger les morts, pour être le patron des embaumeurs, donc s'il est associé aux nécropoles, c'est parce que le chien bon, sauvage est assez féroce, même à l'heure actuelle, hein, on peut constater toujours, quand on est à la lisière du Zézer en Égypte, si on a le malheur de rencontrer les chiens à la nuit tombée, ces hordes un peu sauvages, qui ne demandent qu'à mordre force mollet, on comprend pourquoi les Égyptiens l'ont choisi. C'est en fait, comme il est très agressif, eh bien du coup, il va repousser les forces du mal, toutes les forces maléfiques, on a du mal un petit peu à cerner, et il fera en sorte que le mort gise au fond de son tombeau sans être perturbé par ces forces maléfiques.
Chacal autant que chien.
Anubis, que fais-tu aux dormeurs prêts à l'éternel voyage ?
Je débarrasse les pieds de mon frère de leurs impuretés, afin que la poussière terrestre ne souille pas le ciel.
Anubis, que fais-tu au dormeur qui fut souverain en ce monde ?
Je délivre mon frère de tout ce qui est terrestre, afin qu'il atteigne la vraie beauté.
Notre réalisatrice Marie Casanova, dont les talents de mélomane sont bien connus, a combiné un extrait sur Anubis du film de Kavalerowitz et Isis et Osiris dans la flûte, Mozart, version Fürth Wrangler, la philharmonique de Vienne. Alors on pourrait dire, quelle audace, c'est incroyable. Sauf que les dieux sont fluides, mouvants. Ils ne sont pas fixés comme les divinités grecques.
Oui, en fait, ils ont pas mal de cordes à leur arc. Hein. Donc, je dis déjà au sujet des formes, des noms, donc, ils sont sujets à changement.
Anubis peut se combiner avec quelqu'un d'autre.
Anubis peut se combiner
avec un autre dieu dans les représentations.
Ah oui, bien sûr, puisque bon, ils ont des fonctions là aussi qui vont être assez diverses. Bon, Anubis, par exemple, peut être le protecteur des morts. Il est le dieu de l'embaumement. Il va présider aussi à la pesée du cœur, au jugement du cœur du mort. Enfin, surveiller la balance et donc se porter garant de cette pesée. Donc, ils ont des multiples fonctions et bien sûr, les dieux vont se combiner et différemment. Enfin, selon les fonctions qu'ils vont exercer. Anubis, par exemple, au moment de la pesée du cœur, va effectuer cette pesée donc, en présence d'Osiris, le dieu des morts, et également en présence de Thoth. Ensuite, il va aussi se combiner avec Isis pour présider à la momification. Donc, effectivement, il y a des changements assez fréquents.
Et notre glissando musical était parfaitement justifié.
Voilà, en fonction de...
Les animaux dans l'Égypte ancienne. À vous entendre, Florence Maruejol, on a l'impression que les animaux ont toujours des charges positives. Il n'y en a pas qui ont une charge négative. Vous parliez du porc.
Alors, le porc...
Le
moi,
porc est son vaste terrain d'ordure, disiez-vous. Le porc n'est pas porteur d'espérance.
Non, il n'est pas tellement représenté, en fait. C'est vrai que, bon, par rapport aux autres animaux comme les bovidés, les chèvres ou les moutons qui sont largement représentés sur les parois des tombes, les porcs non, enfin, sont considérés comme une nourriture enfin, bon, pas assez impropre. Enfin, on va pas la montrer dans les tombes, même si on la consomme en réalité, en fait.
Mais enfin, on va quand même donner une chance à la truie.
Oui, la truie, bon, avec l'élevage de ses petits, effectivement. Mais il y a des animaux, bon, comme l'hippopotame, par exemple.
L'hippopotame, c'est lourd.
C'est un animal hostile, surtout aux paysans, hein, qui se donnent la peine de cultiver les terres. Et un hippopotame, la nuit, quand il vient manger, consommer son repas, c'est assez catastrophique, puisqu'il va dévaster en fait des champs entiers. Donc on le chasse. Parce que bon, il est maléfique hein, sur ce plan-là. Et d'un autre côté, en fait, on va aussi récupérer l'hippopotame femelle comme une divinité protectrice, justement à cause de ses qualités d'agressivité, hein, puisque l'hippopotame est un des animaux les plus féroces de la création. Et donc, on va récupérer cette force agressive pour la diriger contre, à nouveau, les forces maléfiques. Et l'hippopotame femelle va devenir la protectrice des femmes, du foyer, des enfants en bas âge. Donc, elle va mettre cette agressivité au service des personnes qu'elle protège.
Et dans le vautour, l'Égyptien peut trouver des vertus positives
Également, parce que le vautour, c'est le hiéroglyphe mout, hein, qui est le hiéroglyphe qui signifie mère. Hein.
Moi, je vous dis, comme Hérodote, porte-parole d'une société pleine de raisons, ces Égyptiens sont fous, au point qu'ils respectent aussi les scarabées.
Ô fils de notre grand pharaon, en travers de la route, j'ai aperçu deux scarabées sacrés qui poussent leur boule de glaise vers les sables. Ainsi que l'ordonnent nos livres saints, je me suis arrêté pour rendre hommage au symbole du soleil. Puis j'ai fait arrêter mes soldats.
Fasse les dieux que ta bravoure et ta piété servent d'exemple au peuple égyptien tout entier. Nous détournerons la colonne pour éviter que nos pieds ne foulent l'obstacle sacré. Pentuer, sais-tu... S'il est possible de contourner les sables par le ravin,
nous allons perdre du temps.
Cela est possible, mais nos hommes n'accepteront jamais de commettre un sacrilège.
Est-il pensable qu'une armée tout entière soit obligée de se détourner de son chemin pour des scarabées ?
Kavalerowitz, le film de 1965, vous me direz qu'on a interrompu en France les travaux de l'A28 pour respecter le scarabée pique-prune, mais c'est juste... une espèce protégée, c'est pas une espèce sacrée comme dans le vocabulaire égyptien. On discute beaucoup à propos d'espèces, de la situation de la barrière. Où faut-il la mettre? Alors on aurait tendance à la mettre entre l'homme, les mammifères d'un côté et les espèces jugées plus basses. Les Égyptiens, il ne considérait pas que le scarabée était une espèce basse.
Non, enfin, d'autant plus qu'il est assimilé au soleil, hein, donc avec son, effectivement, cet animal là qui fait rouler sa petite boule là, vers son terrier, était le symbole en fait de la course du soleil et de la renaissance aussi pour les Égyptiens. Et au demeurant, cela montre en fait cette qualité d'observation des animaux qu'avaient les Égyptiens. Ils vivaient très très proches en fait de la nature, et on le voit donc à travers les représentations. Les très belles peintures ou les reliefs que l'on possède là dans les tombes, on voit que les artistes sont de remarquables animaliers. Donc cette proximité avec l'animal, ils savent très bien la traduire dans l'art.
Les hiéroglyphes comportaient très souvent des représentations d'animaux, le scarabée par exemple, l'hippopotame dont vous nous avez parlé, quand on regarde Enkidam, sans avoir fait d'égyptologie comme vous, Florence Moriojol, l'obélisque de la place de la Concorde, on voit distinctement des oiseaux.
Oui,
c'était une preuve de plus de familiarité.
Champollion qui parlait de basse-cour, même, à propos des hiéroglyphes, parce que les oiseaux sont très présents, mais également enfin, les mammifères, les insectes, les serpents, enfin, l'ensemble du monde animal est représenté par les hiéroglyphes.
On n'imagine pas que la civilisation égyptienne a duré 3000 ans.
Oui, environ 3000 ans. Oui.
Peut-être même davantage. Et donc, le rapport avec les animaux évolue. Mais il n'évolue pas dans le sens qu'auraient souhaité les voisins grecs. Plus les gens de l'extérieur critiquent la zoolatrie des Égyptiens, plus les Égyptiens accentuent leur familiarité, leur proximité avec les animaux.
Non, c'est-à-dire que quand les Grecs, enfin, à commencer par Hérodote, hein, Hérodote qui visite l'Égypte vers 450, disons, avant Jésus-Christ, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque où les Égyptiens, en fait, adorent ces animaux à une échelle bon, qui n'était pas représentée auparavant. Donc, en fait, ils sont témoins de cette ferveur, mais non, pas connue, en fait, les époques précédentes, où l'animal sacré était cantonné dans le temple. En fait, il y avait un animal sacré par dieu. Par exemple, le dieu Ptah de Memphis était associé au taureau. On vénérait donc un taureau comme la statue du dieu à laquelle on rendait le culte au fin fond du temple. Donc le taureau était considéré comme une incarnation de la divinité. Quand le taureau mourait, on l'enterrait en grande pompe, on le momifiait, enfin on le parait de toutes sortes de bijoux. Ensuite, on choisissait un remplaçant et ainsi de suite. Par contre, donc à partir de la basse époque, disons vers le milieu du premier millénaire, on va changer un peu l'optique de cet animal sacré.
Les temples deviennent des parcs où quantité d'animaux sont élevés, tués, momifiés, vendus, des parcs zoologiques.
Voilà, donc les prêtres vont se mettre là à élever certaines espèces, le chat, l'ibis en particulier. Et en fait, l'idée, c'est de vendre ces animaux à un fidèle qui a besoin de s'adresser à une divinité, qui veut adresser un vœu, un souhait, qui veut remercier aussi la divinité d'avoir exaucé ses souhaits. Donc le dévot vient acheter un chat, par exemple. Les prêtres vont tuer le pauvre minou et le momifier, le mettre dans un petit sarcophage et l'enterrer pieusement dans un cimetière qui est réservé à ce type d'animaux.
Merci d'avoir pris l'exemple du chat, parce qu'on va avoir une illustration, si vous le permettez, Florence Marmé. Signé d'un journaliste de télévision, Pierre Serra. C'était à Saqqara, donc un peu au sud du Caire, en 1982.
La pyramide à degré de Saqqara, avec tout ce qu'elle représente en elle-même, n'est en fait que la partie apparente de ce qu'on pourrait appeler un iceberg de pierre dans l'océan de sable du désert. Et l'on vient justement d'y découvrir une des curiosités de l'archéologie égyptienne, les chats momifiés. Des centaines, peut-être des milliers de chats momifiés sont entassés là dans leurs sacs de toile.
Le chat est assez bien conservé avec ses poils roux. Voici ici un crâne de chat qui a été trouvé. On voit encore la peau avec les yeux et le nez, la truffe du nez. Ces animaux étaient momifiés donc par centaines, parce que dans la représentation dans le français des Égyptiens, tous ces animaux pouvaient être appelés à renaître et nécessitaient donc d'être momifiés exactement comme des êtres humains.
Appelés à renaître, dit Serra, appelé à être vendu, disiez-vous.
Oui, c'est-à-dire que, pour terminer en fait, sur l'ensemble du processus, donc, les animaux sont enterrés dans des cimetières qui leur sont réservés. Et effectivement, certains de ces cimetières peuvent contenir plusieurs millions, jusqu'à 2 millions d'animaux momifiés. Bon, certaines fois, d'ailleurs, sont dans les sarcophages, on a retrouvé un petit peu des morceaux de briques et de broc. On avait fabriqué une momie qui ressemblait vaguement à un chat. Mais bon, pour les Égyptiens... L'essentiel, c'était d'avoir la forme et la magie allait faire en sorte que le système fonctionne. En fait, l'idée, c'était donc d'expédier ces animaux un petit peu comme une lettre à la divinité, puisque pour les Égyptiens, la mort n'est jamais une fin. C'est-à-dire que l'animal, comme l'être humain, va revivre dans l'au-delà. Donc c'est ce qui peut nous consoler de la mort du pauvre Minou, c'est que donc il revit dans l'au-delà et puis il va délivrer le message du dévot qu'il a acheté à la divinité. Bon, ce qui explique qu'il soit proprement enterré dans les cimetières, certains assez luxueusement avec de jolis sarcophages pour bénéficier de leur vie dans l'au-delà.
Cette frénésie qui étonnait Hérodote va concerner pour la momification les poissons, les serpents, les scorpions.
Oui, en fait, il y a beaucoup d'animaux. Enfin, il y a même un exemple dans les réserves du musée du Louvre d'un œuf. C'est-à-dire que l'animal n'a même pas eu le temps d'éclore que pouf, il était déjà momifié. Donc, ça dépendait aussi évidemment des dieux que l'on vénérait dans telle ou telle ville et de l'animal sacré qui était attaché à la divinité. Alors, il y avait des tabous. C'est-à-dire qu'il était interdit, par exemple, de manger tel poisson dans la ville puisqu'il était associé à telle divinité. Mais comme la ville d'à côté, elle, vénérait une autre divinité était associée à un autre animal, elle ne se privait pas de manger du poisson. Alors, de temps en temps, il y avait des bagarres comme ça qui dégénéraient entre villes, qui nous sont racontées d'ailleurs par les auteurs grecs, d'une bagarre qui avait dégénéré entre la ville qui mangeait le poisson de leurs voisins et les Romains qui ont dû intervenir pour remettre un peu d'ordre dans tout ça.
L'hippopotame était trop gros pour être momifié facilement. Le taureau a eu des difficultés avant d'être sujet technique de momification convenable. Je voudrais terminer avec une dernière question. À Saqqara, dont on parlait, il y a un sanctuaire d'Apis, le dieu taureau, plusieurs nécropoles de taureaux, des momies de taureaux, mais on sacrifie aussi la vache et le taureau.
Osiris, dieu de la mort et des ténèbres, prends ce taureau sacré et donne à notre roi la vie éternelle. Inclinez-vous devant votre pharaon, votre dieu, maître de la basse et de la haute Égypte.
Mes amis, relevez-vous, qu'un sacrifice soit donné pour accompagner le voyage de mon père à travers le royaume d'Osiris.
Les animaux sacrés, mais c'est pas sacrilège de les sacrifier ?
Non, puisque on va faire la distinction entre l'animal sacré, dont vous parliez du taureau Apis, qui se différencie du reste des bovidés. Et après, il est tout à fait courant de manger du bœuf, de servir du bœuf aux divinités, à la table du roi. Donc on fait bien la distinction. Pour le chat, c'est un petit peu différent, parce que là, il y aura le chat qui est vénéré comme animal sacré de la divinité, qui va incarner la divinité. Et à côté de ça, les chats qui sont donc élevés par les prêtres, tués par les prêtres. Et comme vous le disiez au début de l'émission, il est interdit, par exemple, de tuer des chats. C'est-à-dire que c'est un privilège des prêtres. Mais par contre, quelqu'un qui, dans la rue, va tuer un chat, comme le raconte Diodore de Sicile, qui raconte qu'il a vu un Romain lapidé par la foule parce qu'il s'en est pris à un chat.
Puisqu'on termine sur les chats, cette émission consacrée à la barrière des espèces telle qu'elle n'était pas vue par les Égyptiens, un auditeur vous signale qu'on ne dit pas « minou » mais « miou ». En égyptien, mais vous
absolument.
Le saviez.
Oui, absolument.
Merci
c'est
à
Miou,
vous.
D'après l'onomatopée.
Florence Marvejol, vos livres chez First, chez Chronique, tous les autres, sur notre site. L'émission a été réalisée par Marie Casanova, avec Yann Bouillot, Gilles Gaillard, préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin et Camille Poux-Jalaguier.